BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est quasiment le ministre des Finances bis, c'est Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonsoir Éric Lombard.
Bonsoir Edwige Chevriot.
Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. J'ai envie de dire essentiellement autour de la crise du logement, cette bombe à retardement. On devait avoir aujourd'hui des mesures annoncées par le gouvernement à l'issue du CNR logement, comme dit le gouvernement. Il a été encore repoussé. Vous nous direz, vous, qui êtes un des principaux acteurs, évidemment, du logement en France, vous nous direz qu'est-ce que vous préconisez. Peut-être un mot d'abord. Vous êtes actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises françaises, en tous les cas du CAC 40. Vous avez vu les déclarations de Gabriel Attal, ministre du Budget, qui présentait son plan contre la lutte fiscale. Il vise les ultra-riches et il vise les grandes entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de fraude fiscale dans les grandes entreprises ?
Alors, on n'est pas les mieux placés pour avoir un jugement là-dessus. C'est pas l'impression qu'on a dans le dialogue qu'on a avec les dirigeants des entreprises qui ont tous plutôt envie d'être en règle avec le fisc. En plus, on a un taux de prélèvement sur les résultats des entreprises qui a baissé ces dernières années en France. Et donc, je pense que l'idée de faire de l'optimisation fiscale, qui se faisait peut-être beaucoup il y a quelques années, est maintenant sortie de l'écran radar de beaucoup de dirigeants. En tout cas, je le souhaite, parce que payer ses impôts, c'est un acte citoyen et l'État en a besoin.
Oui. Donc l'optimisation fiscale, on en fait moins qu'avant. C'est ça que vous avez ce sentiment-là.
C'est le sentiment que j'ai, mais enfin, quand j'entends les déclarations du ministre, peut-être n'est-ce pas le cas. Il est certainement mieux informé que moi de ces sujets.
Réponse prudente d'Éric Lombard, vous avez raison. Crise du logement, on a le sentiment, vous avez vu encore les chiffres, hein, comme moi, la baisse du crédit immobilier, moins 42% par rapport à la même période, à 14 milliards. Tous les indicateurs sont non seulement en baisse, mais sont plutôt en chute. Est-ce que on est face à une... Est-ce que ça doit être une cause nationale, le logement ?
Oui, je pense que ça doit être une cause nationale. C'est une cause nationale parce que on a dans le logement une crise parfaite parce que tous les indicateurs sont compliqué. On a les indicateurs financiers avec la hausse des taux d'intérêt, on a le coût des matières premières, le coût du foncier, et la rareté du foncier d'ailleurs, qui est un peu accélérée par le fait de ne pas artificialiser les sols, ce qui d'ailleurs est une politique qui est nécessaire. On a aussi un certain nombre d'élus qui sont moins engagés. Il y a moins de maires bâtisseurs qu'auparavant. Et donc tout ça fait que on a un effondrement. Et donc il faut évidemment y répondre.
Est-ce que, quand même, Éric Lombard, est-ce que la situation, s'il fallait la qualifier, est-ce que c'est vraiment une bombe à retardement ? Est-ce que vous êtes inquiet, très inquiet ?
C'est une situation qu'il faut traiter de façon professionnelle et déterminée. Alors, chacun y contribue.
Oui, mais vous, patron de la Caisse des dépôts, principal acteur.
Alors, en ce qui concerne la Caisse des dépôts...
Quel est votre niveau d'inquiétude ?
Le niveau d'engagement est élevé. Je vais vous donner
Je parle d'inquiétude d'abord.
On est inquiet quand on ne sait pas ce qui va se passer. Or, nous savons ce qui va se passer. La hausse des taux d'intérêt se traduit toujours, d'abord par un ajustement des prix de l'immobilier, puis en l'occurrence, effectivement, les ménages sont moins en capacité d'acheter, les promoteurs sont moins en capacité de construire, et donc il y a un ralentissement très prononcé du rythme de construction. C'est une certitude. Et c'est très...
Oui, ça, on sait, c'est factuel.
Voilà. Il faut réagir à ça.
Que faut-il,
la construction. Alors, je vais vous donner un exemple concret sur ce que la Caisse a décidé la semaine dernière, sous l'autorité de la commission de surveillance. On a décidé de financer un plan qui va permettre d'engager 3,5 milliards d'euros pour acheter des programmes à différents acteurs pour qu'ils permettent eux-mêmes ensuite pour en construire d'autres. C'est-à-dire que ce plan vise à remettre des fonds dans le système de...
C'est-à-dire que vous allez racheter des programmes vacants à des promoteurs immobiliers qui sont en difficulté.
Alors, pas des programmes vacants. On va engager un programme. On a fait une augmentation de capital de 650 millions d'euros de CDC Habitat, qui est la filiale qui est en charge, qui va acheter 15 000 logements dans les mois qui viennent, mais qui sont des programmes déjà engagés, qui sont pas des programmes vacants, qui sont des programmes qui sont en construction, pour donner des moyens aux promoteurs qui les ont engagés d'en lancer de nouveaux. Parce qu'il faut absolument que la boucle qui permet de construire soit maintenue. Et avec ce programme, on achète les deux tiers, en fait, des ventes en bloc du secteur. Donc c'est un soutien puissant. Nous, ça va nous permettre d'accélérer la rotation de nos propres actifs. Et puis, on espère que les promoteurs, encore une fois, grâce à cette accélération des cessions, vont pouvoir construire plus. Ça, c'est un soutien important au secteur qui va, encore une fois, permettre 3,5 milliards d'engagements dans des achats d'immeubles.
Et ça veut dire que, comme ça, il y a une forte de visibilité.
Alors, ça donne de la visibilité
Le gouvernement, vous a demandé le gouvernement pour dire, c'est une manière pour les acteurs de savoir un peu où va le marché.
Ça permet peut-être de donner un coup d'arrêt à la baisse et un signal de reprise, un signal de confiance. Ensuite, il faut que les élus eux-mêmes soient plus engagés pour inciter les organismes HLM de leur ressort de construire, parce qu'on ne construit pas assez, mais il y a pas assez de projets peut-être, mais aussi quand le projet arrive, il faut que le permis de construire soit délivré, notamment dans les zones tendues.
Cela dit, je reviens un instant sur une autre précision. Elisabeth Borne, quand elle a fait sa conférence de presse après l'intervention du président sur ces fameux 100 jours, son plan d'action, elle a juste dit qu'il y avait un problème, une crise sur l'immobilier, et elle a dit il faudrait que la Caisse des dépôts rachète, c'est pour ça que je vous posais la question, rachète des programmes aujourd'hui vacants à des promoteurs immobiliers en difficulté. Elle l'a dit, et ce matin, votre prédécesseur Pierre-René Lema le rappelait sur cette antenne. Est-ce que vous y êtes prêt?
Alors, on ne va pas procéder exactement comme ça. D'abord, on va privilégier les zones tendues, les zones où on manque de logements. Ça, c'est un premier point important. Deuxièmement, on va répartir les propositions envers un grand nombre de promoteurs. Il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel. On veut vraiment que tous ceux qui ont des programmes qui nous conviennent puissent trouver avec nous un interlocuteur. Comme les prix baissent, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire ces opérations à des prix qui correspondent à ce que nous pensons être aujourd'hui les prix de marché. Et c'est clair que...
Et ça va être violent?
Un
ajustement assez violent?
Violent...
Non, mais ça, ça va être moins 10, moins 20, ça va être quoi?
C'est en train de discuter programme par programme, et c'est trop tôt pour dire, parce que...
Non, mais l'ordre de grandeur, évidemment.
Ces discussions, elles viennent de commencer, avec un grand nombre d'acteurs, donc c'est vraiment trop tôt. Et puis en plus, la référence, ils avaient un prix en tête il y a quelques mois, mais aujourd'hui, ces prix sont plus les prix qui sont ceux du marché.
Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça suit les prix du marché?
Nous, on veut suivre les prix du marché, parce que naturellement...
Donc c'est entre moins 10 et moins 20, si on regarde les prix du...
C'est vraiment trop tôt pour le dire, ces discussions sont en cours.
Ouais. Et elles vont aboutir quand ?
Ça va s'échelonner, puisque toutes les métropoles, toutes les zones tendues sont concernées, un grand nombre d'acteurs sont concernés, les équipes de CDC Habitat dans toutes les régions sont engagées. Donc ça va s'écouler dans les semaines qui viennent. L'important, c'est de donner la visibilité en montrant qu'un acheteur comme la Caisse est engagé à l'achat.
Je vous le disais en introduction, le CNR Logement, parce que maintenant c'est une thématique importante, ça n'était pas au départ. Hein, quand même. Mmh. Est-ce que justement il n'y a pas eu un retard à l'allumage de la part du gouvernement pour une prise de conscience tardive de cette crise du logement?
Je ne suis pas sûr que la prise de conscience était tardive. Prenons une mesure qu'a prise le ministre des Finances au mois de février, de maintenir le taux du livret A à 3%. C'est très important pour le logement social.
Ça, on va y revenir.
La base.
Oui, mais ce n'est pas tout. Vous-même, vous avez dit...
C'était un ajustement. Il y a une décision prise en début d'année de baisser de 1% les prêts qui sont engagés au profit d'acteurs qui construisent des nouveaux logements. Donc, il y a des mesures de soutien qui ont commencé à arriver. Après, on suit l'évolution des choses, mais je ne pense pas qu'il y ait de retard à l'allumage. C'est maintenant qu'il faut intervenir.
Et c'est pourquoi les mesures qu'il devait annoncer aujourd'hui seront annoncées, c'est repoussé pour la, je ne sais pas combien fois.
Ça, je ne suis pas en charge des éléments de communication.
Non, mais est-ce qu'il y a un bisbille entre Bercy et le ministre du Logement? Je ne sais pas, vous êtes plus au fait que nous, Éric Lombard.
Oui, mais c'est un travail qui se fait en continu. Hein. J'ai cité deux mesures qui ont déjà été prises. Ensuite, il faut que l'ensemble des acteurs, qui sont les élus, les acteurs du logement social, eux-mêmes fassent chacune et chacun leur part d'effort. Ce qui est en train de se faire, hein, on est en dialogue évidemment avec les fédérations de logement social, qui sont aussi très engagés.
Oui, parce qu'en plus, avant de passer de la question du taux de livret A, il y a des questions sur quelles mesures il faut prendre. Est-ce que, par exemple, encadrer le prix du foncier, pour vous, est une bonne mesure? C'est sur la table? Est-ce que...
Alors, ça peut être une idée, parce que c'est clairement un des sujets qui bloque. Mais avant de parler d'encadrement, il faut aussi libérer le foncier disponible. Le ministre Christophe Béchu fait observer qu'il y a en foncier disponible dans nos villes l'équivalent de 10 années d'artificialisation des sols.
Oui.
Donc, les grands acteurs publics, les villes, les acteurs privés ont du foncier qu'il faut absolument remettre en circulation pour qu'on puisse construire. Puis faut pas se faire d'illusions. L'impératif écologique va aussi conduire à modifier la façon de piloter l'urbanisation. On devra construire plus en hauteur, on devra construire avec plus de densité. Et
oui, mais
tout cela n'a pas encore été complètement intégré par tous les acteurs publics ou privés.
Non, mais c'est un coût tout ça, parce qu'il y a un coût, et il y a aussi le problème du coût de construction qui a aussi flambé.
Alors le fait de construire en hauteur permet justement d'amortir le coût du foncier et le prix de construction sur un immeuble, sur une opération qui est plus dense. C'est aussi des réponses à ces questions financières.
Sur laquelle on parlera aussi des logements sociaux, évidemment, parce que ça c'est un point très important. Juste quand même cette question du livret A. Vous êtes contre l'augmentation, c'est sur la table, hein, l'augmentation du taux de livret A, sachant que c'est à 3%. La prochaine hausse, est-ce qu'il y en aura ou pas? Vous êtes face à une inflation qui peut être 5,5, 6, même un peu plus. Est-ce qu'il n'est pas logique de favoriser quand même un peu plus l'épargne des Français?
Alors, pour l'épargne des Français les plus modestes, il y a le livret d'épargne populaire qui rapporte 6,1%, ce qui est un niveau élevé. 3%, c'est vrai que c'est un taux par rapport à d'autres produits d'épargne qui est intéressant, d'autant que cette épargne, elle est garantie, elle est liquide, elle est défiscalisée.
Oui, mais c'est deux fois moins que l'inflation.
C'est moins que l'inflation. Oui. Le raisonnement qu'on peut poser, c'est que l'inflation va décroître. C'est ce que pensent les économistes et c'est ce que souhaitent évidemment les pouvoirs publics. Et donc, dans ces cas-là, si jamais le taux du livret A devait remonter, ce serait pour une période courte. Est-ce que c'est utile d'avoir cet effet de yo-yo, comme je l'ai déjà qualifié? La décision appartient d'abord au gouverneur de la Banque de France, qui fera une proposition, et au ministre qui décidera. Effectivement, nous, on est très proche du mouvement du logement social. Il y a 170 milliards d'euros
qui est financé, justement,
qui est financé sur des prêts basés sur le livret A. Et donc, si on veut soutenir le mouvement de construction, c'est important que soyez pas de hausse, soit s'il y a une hausse, elle soit la plus modérée possible.
La plus modérée. Le niveau d'encours, le dernier chiffre que vous avez, c'est quoi du livret A? C'est quoi le dernier?
Alors,
relevé de l'encours du livret A.
L'encours du livret A et des livrets d'épargne populaire, c'est plus de 500 milliards d'euros. Rien que pour ce qui est arrivé à la Caisse des dépôts, il y a 50 milliards d'euros de plus qui sont arrivés depuis le début de l'année 2022. Donc on est dans des records absolus. Et donc cette épargne, elle est disponible pour construire et pour financer d'ailleurs d'autres choses.
Justement, alors parce que ça finance notamment les logements sociaux. Quelle est votre la capacité à produire justement ces constructions de logements sociaux, sachant que c'est basé sur le livret A? Le taux d'intérêt des bailleurs sociaux, il est en fonction du taux du livret A.
La capacité à construire, elle est très grande, puisque si les bailleurs sociaux trouvent du foncier, un permis de construire, même si les matières premières coûtent plus cher, il suffit d'avoir des prêts d'une durée plus longue et les programmes peuvent fonctionner. Et avec la collecte que nous avons sur le bilan de ce qu'on appelle les fonds d'épargne, 50 milliards ces 15 derniers mois, on peut financer très au-delà de ce qu'on construit dans les très très bonnes années. L'année dernière, on a prêté 12 milliards d'euros pour financer la construction de logements, comparé à 30 milliards d'euros de collecte. Donc vous voyez bien que on a une épargne abondante et il faudrait qu'on l'utilise plus utilement, mais pour ça il nous faut des projets.
Oui, mais vous avez dit, chez nos confrères de France Info, vous avez dit il y a quelques jours, il faut construire au moins 100 000 HLM par an.
Oui.
Mais où, quoi, comment?
Alors, il y a des friches.
Ça me fait penser au ministre du Logement qui n'arrêtait pas d'annoncer des chiffres, il faudra construire tant par an, etc. Et on voit bien que le résultat n'est pas du tout à la hauteur.
Alors, avant le Covid, on en construisait plus de 100 000. Et l'année dernière, année de sortie du Covid, on en a construit 85 000.
Oui.
Donc, on est quand même dans ces éléments d'ordre de grandeur. Il y a des projets possibles. Encore une fois, il y a des friches en centre-ville. Il y a des espaces qu'on peut densifier un petit peu plus. On peut augmenter la hauteur de certains bâtiments. Il faut qu'on soit plus imaginatif. Et si on a une volonté collective, et c'est là où il faut effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs, on peut y arriver.
Là, vous pensez être sur quelle traîne pour 2023 ?
On est aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, on risque d'être au-dessous de ce qu'on a eu l'année dernière, qui était 85 000. Or, faudrait vraiment qu'on remonte la pente le plus vite possible.
Donc sur 2023, vous serez à 80 000, puisque vous étiez en dessous.
C'est le risque.
Oui, c'est le risque. Mais justement, donc, là, il y a urgence. Qu'est-ce que vous proposez?
Il y a la question de, encore une fois, la décision des élus. Et il me semble, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs quand nous allons voir les élus, quand nous allons voir les acteurs du logement social, les fonds sont disponibles. Je pense que l'ensemble des acteurs doivent se dire que les taux d'intérêt sont élevés, que ça va durer et que les matières premières ne vont pas redescendre. Ouais. Et que donc il faut adapter leur programme d'investissement à ce nouvel environnement économique.
Un mot encore sur le 9 ans. On voit pour rénover ces parcs de logements sociaux, c'est à peu près 250 milliards d'ici 2050. Alors c'est loin 2050, mais c'est une très très grosse somme, 250 milliards. Comment est-ce qu'ils ont, comment les bailleurs sociaux ont les moyens de cette rénovation sociale ?
Les bailleurs sociaux sont en avance sur la rénovation thermique du parc.
Oui.
Parce que il y a 500 organismes, on les connaît tous évidemment, qui sont très professionnels. Et la rénovation thermique, ils en ont un avantage immédiat parce que ça baisse la facture de leurs locataires.
Oui.
Et donc la moitié du parc aujourd'hui est dans des notes qui sont bonnes. Et qui sont celles qui sont nécessaires aujourd'hui. Et d'ici à 2030, on va continuer pour rénover le reste du parc. Et ça, c'est quelque chose qui avance bien, parce que pour le coup, on n'a pas de problème de permis de construire, on n'a pas de problème de trouver des friches. Il suffit juste de s'organiser pour rénover.
Justement, à propos de rénovation, vous avez lancé aujourd'hui un plan de rénovation et du rénov de 10 000 écoles à échéance 2030, oui. Je crois.
Non, des 10 000 écoles, c'est à l'horizon de la fin du quinquennat.
Fin du quinquennat, 2027.
Oui, il faut. Parce que, d'ailleurs, on a signé ce matin la première à Villetaneuse. Magnifique projet. On va réduire de 40% la consommation d'énergie. Donc ça, c'est merveilleux. Ça va permettre d'avoir des meilleures conditions pour les élèves dans des classes, parce que les écoles seront mieux isolées, elles seront plus fraîches l'été. La terrasse est végétalisée. Et donc, faut qu'on en fasse 10 000. On a prévu 2 milliards d'euros pour ce qui concerne la Banque des Territoires pour financer ce programme. Et on va engager 50 millions d'euros d'ingénierie, parce que avant de rénover, il faut faire des études que nous allons financer.
Et combien par an, donc? Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de faire une division, j'imagine que... Est-ce que vous allez aller très vite cette année ou plutôt à partir de 2024
C'est aux élus de signaler leur intérêt. On met en place un site qui leur permet tout de suite de s'inscrire, d'avoir les financements qui sont mis en place. La limite va peut-être être la capacité à rénover des artisans et des entreprises. Mais les financements sont là. 2 milliards d'euros, ça représente ce qu'on collecte en une semaine.
Oui, c'est quand même, c'est toujours des sommes assez énormes dès qu'il s'agit de la Caisse des dépôts. Un mot sur la réindustrialisation de la France et l'industrialisation verte. On sera, donc BFM Business, on sera tous à l'Élysée parce que le président de la République va faire un discours sur cette question. Le rôle de la Caisse des dépôts là-dedans, c'est quoi ?
Alors, j'y serai aussi.
Oui.
Le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'abord de financer tout ce qui est foncier. Quand il y a des usines, si on peut financer des usines pour que les territoires soient ce qu'on appelle les territoires clé en main, pour que quand le projet industriel arrive, eh bien l'industriel, on puisse lui dire, mais là, à Châteauroux, à Dunkerque, à Roanne, il y a un terrain sur lequel vous pouvez vous installer, et ça, c'est ce que fait la Caisse, sachant que l'entreprise elle-même est financée par BPI France, dont vous savez que nous sommes coactionnaires avec l'État.
Oui, donc c'est sur le foncier que vous allez mettre le paquet.
Et puis, on peut dire qu'on a presque terminé de mettre la fibre optique partout, et ça, c'est un des éléments de compétitivité important, puisque on a créé 8 millions de prises dans les zones rurales ces dernières années, et que la France est un des pays les mieux câblés d'Europe, le pays le mieux câblé d'Europe aujourd'hui.
Éric Lombard, deux questions sur, alors une sur une très grosse entreprise, EDF, qui doit se restructurer. Je ne sais pas si vous allez participer au financement du nucléaire, hein, on est bien d'accord.
Vous
allez combien ?
Alors,
Est-ce que le livret A doit servir à financer le nucléaire ?
C'est une question démocratique autant que financière. Mais dès lors que le Parlement va voter...
Sensible, en tous les cas.
Sensible, bien sûr. Mais le Parlement va voter l'équilibre énergétique de l'avenir entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Et si le Parlement vote l'idée que la France ouvre, crée de nouvelles centrales nucléaires, il me paraît logique que la Caisse des dépôts, qui est placée sous la protection du Parlement, dans sa gestion de l'épargne des Français, finance ces centrales. Et nous en avons la capacité financière, parce que le programme nucléaire français, c'est 50 milliards d'euros. Si on finance un tiers avec les fonds du livret A, 15 milliards d'euros, on voit bien que c'est la moitié de la collecte de l'année dernière.
Mais est-ce que vous croyez que les Français qui mettent leur action dans le livret, leur argent, leur épargne, leur bas de laine dans le livret A, ils ont envie de financer le nucléaire ?
Eh bien, on peut d'abord, mais je souhaite qu'il reste, sur le livret A.
On voit que c'est sensible là, comme question.
Non,
oui.
Mais il y a liberté. Aujourd'hui, le livret A finance le logement social. Jusqu'ici, les Français se disaient pas, mais tiens, le logement social, j'aurais préféré financer autre chose. Mais je pense que c'est important en transparence de dire ce que nous
donc
prévoyons
c'est ce que
faire.
Vous, voilà, vous prévoyez non, de financer à travers le livret A. Voilà, moi c'est dit.
Nous prévoyons pas ça parce que la décision d'allocation des fonds du livret A, les fonds du livret A, on le gère pour le compte du gouvernement. Donc c'est le ministre des Finances qui nous donnera l'autorisation d'eux. Nous disons, il y a un outil, c'est un outil merveilleux le livret A, et ça vaut aussi pour le logement, parce que le taux est indexé sur l'économie. Et donc on peut prêter à 70 ans avec un taux dont on a la garantie qu'il sera toujours indexé sur les taux d'intérêt, sur l'inflation. Et donc, c'est probablement une bonne chose pour la qualité du financement du programme nucléaire français si le livret A y participe.
D'accord, les 50 milliards, donc, ils seront financés sous les réserves que vous venez de nous expliquer par le livret A.
Non, il ne serait pas raisonnable de financer l'intégralité du programme. Il y faudra des fonds propres d'EDF ou de l'État. Ouais. Il y faudra probablement de la dette de marché. Mais je pense que le livret A peut en financer peut-être un tiers, peut-être un peu plus.
Juste à propos, tiens, d'EDF, parce qu'il est en pleine réflexion, Luc Rémont, son nouveau président. Est-ce que vous pourriez, vous êtes déjà actionnaire de RTE ?
Le réseau de transport d'électricité,
oui,
absolument.
Gros infrastructure, pardon, très importante, absolument. Essentielle, et évidemment. On sait que l'infrastructure, c'est vraiment du registre de la Caisse des dépôts. Vous avez aujourd'hui 49%. À supposer que RTE soit vendu, est-ce que vous seriez prêt à prendre les 51% d'EDF ?
Alors, déjà, il faut bien voir que les règles européennes font que la gouvernance d'une infrastructure telle que RTE, elle est plus pilotée par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, que par les actionnaires, même si les actionnaires ont leur mot à dire.
Oui, parce que j'imagine, si vous devez mettre ça...
Le partenariat avec EDF est important, parce que la technologie, elle est évidemment aux mains d'EDF, même si c'est des sujets que nous connaissons bien. Mais s'il fallait monter au capital, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder.
Oui, d'accord. Donc ça,
parce que c'est
important.
Une très belle infrastructure aussi.
Évidemment.
Et on a été très fiers quand les équipes de RTE ont connecté le réseau européen sur l'Ukraine il y a à peu près 12 mois.
Et sur Enedis, ça vous tenterait ?
Enedis, c'est un très très grand réseau qui est détenu aujourd'hui à 100%, qui est en lien étroit avec les collectivités locales. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de dossier qui soit ouvert.
Nous, vous savez, on aime bien faire des supputations.
Ce sont de grandes infrastructures publiques qui sont utiles aux Français, et donc s'il y avait un dossier, on le regarderait.
Ah oui, d'accord. Un mot, 30 secondes, Orpea, négociation, restructuration plus difficile avec les petits créanciers, les créanciers non sécurisés qui protestent.
Eh bien, c'est la première fois que les nouvelles règles européennes, de ce qu'on appelle la sauvegarde accélérée, s'appliquent. Ce sont des règles qui prévoient une hiérarchie entre les actionnaires et les classes de créanciers. Et sous l'égide du tribunal de commerce, chaque classe, les actionnaires et les créanciers, sera interrogée et aura l'occasion de voter. Et le droit s'appliquera. Nous avons mis sur la table un plan qui a d'abord une vertu de mettre l'éthique en objectif premier de cette belle entreprise. Et deuxièmement, nous allons injecter 1,3 milliard d'euros de fonds pour permettre à l'entreprise de repartir de l'avant.
Donc, il n'y a rien à voir, circuler, en tous les cas.
Le tribunal de commerce se prononcera.
La Caisse des dépôts fait son devoir. Merci beaucoup, Éric Lombard. On pourrait encore plein de questions. Vous allez revenir nous voir. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, était notre invité. Tout de suite, Tech & Co.